Bonjour Bertille, bonjour à toutes et à tous. À la une, le groupe de travail de la société civile hausse le ton au sujet de relocalisation de Alinda Rassa à Bambari. Il menace d'appeler à la ville morte si le gouvernement ne revient pas sur sa décision. Des cas de braquage récurrents ces derniers jours au quartier Ngongono 6 dans le 8e arrondissement de Bangui. Le chef Mustapha Bala appelle à l'aide. Et puis le directeur gérant de l'entreprise Choisissarl demande aux camionneurs de ne pas rouler sur les pavés du carrefour des Martyrs avant 45 jours. Il appelle les autorités à appliquer la décision concernant la circulation des véhicules de plus de 50 tonnes sur cette chaussée. En sport, le ministre des Sports salue l'élection de Célesté Yanindji à la tête de la Fédération Centrafricaine de Football. Emmanuel Samboli avec moi pour ce journal. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Eda, bonjour à tous. Le groupe de travail de la société civile menace d'appeler à la ville morte si le gouvernement ne revient pas sur sa décision de relocaliser Alinda Rassa à Bambari.
La société demande la démission du premier ministre Firmin Grébada et le départ des diplomates accrédités en Centrafrique ayant participé à la réunion motivant cette décision gouvernementale. Position exprimée par Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile hier. Lors d'un point de presse à Bangui, Gervais Lacosso est au micro de Jean-Fernand Kouina.
Ça nous inspire un sentiment d'humiliation. Le Premier ministre est en train de poser un acte de haute trahison et les garants de ce soi-disant accord de Khartoum sont en train de se moquer du peuple centrafricain. Et c'est pour cela que nous, le GTSC, en tant qu'une organisation parlant au nom des Centrafricains, nous disons non à cela. Et nous n'allons pas nous arrêter comme ça par une simple déclaration. Le mercredi 5 août, nous invitons tous les Centrafricains à rester chez eux, à la maison. Pas de travail ce jour-là. C'est une journée ville morte. Et nous convoquons un rassemblement patriotique et citoyen au monument des martyrs pour dénoncer cela. Et qu'est-ce que nous revendiquons ? Nous revendiquons la démission sans condition du Premier ministre. Nous allons saisir le gouvernement officiellement pour demander cela.
C'était là Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Le chef du quartier Ngongono 6 dénonce les multiples cas de braquage enregistrés ces derniers temps dans son quartier.
Selon Mustapha Bala, depuis l'installation d'un poste avancé de la police au marché combattant, les malfrats se sont retirés pour commettre leurs forfaits sur les paisibles habitants de son secteur. Il appelle les autres chefs de quartier et les résidents à signaler aux autorités la présence de ces braqueurs. Mustapha Bala est au micro de OG Aubervo Palanyan.
Ils ont inondé les quartiers, question de braquage. Chaque jour, avant-hier, là où la pluie commence à tomber, là, ils ont braqué la femme à mon premier garçon. Et dans cette nuit-là, ils ont braqué aussi le chef de quartier Ngongono 3. Ils ont emporté son moto. Donc, les braqueurs sont renversés dans les quartiers maintenant. Pour le moment-là, ils se trouvent dans les quartiers, non pas sur la route. Donc, il faut les populations faire très attention pour les surveillances dans les quartiers. Et sinon, nous serons inondés et puis on ne permet même pas vivre dans ces pays. Parce qu'il y a trop de volets. Donc, les populations du 8e arrondissement vont faire très attention. Et puis, je tire l'oreille des chefs de quartier, l'un et l'autre. Ils vont faire forte sensibilisation pour que les populations soient motivées dans notre quartier. Ils sont les ennemis de paix. Je lance l'appel solennellement à mes collègues chefs de quartier, les chefs de groupe. Il faut être éveillé. Il faut être dynamique pour dans leur travail. Sinon, nous irons dessus par les braqueurs. Il faudra que sensibiliser les hommes, les femmes. Quand la nuit, là, il faut les femmes préparent leur assiette ou bien les siffler. Si quelque chose comme ça arrive, on sera bien protégé. Mais sinon, on ne sera pas bien.
Le directeur gérant de l'entreprise Choisissarl appelle les autorités à appliquer la décision concernant la circulation des véhicules de plus de 50 tonnes sur les pavés du carrefour des Martyrs.
Selon lui, ces camions devraient attendre 45 jours après la mise en service des installations pour y circuler. À cet effet, il sollicite l'appui des pouvoirs publics pour la protection de la chaussée. Londry Choisi Wanda est au micro de Radio Ndekeluka.
Nous avons tenu une réunion avec le ministère des Travaux publics pour signaler ces cas, avec le laboratoire national qui avait insisté sur la date des pavés et la date de mise en service. Mais comme il y avait une urgence nationale en termes de circulation, le ministère avait décidé à ce qu'on ouvre la voie. Mais il y à une certaine limite de charge des véhicules qui devaient emprunter ce rond-point. Malheureusement, aucune disposition n'a été prise pour que ces mesures soient respectées. Et aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de regrets que la même journée de l'ouverture, il y a eu des gros véhicules de plus de 60 tonnes qui passaient sur le rond-point, alors que nos pavés n'ont même pas encore atteint 28 jours. À partir de maintenant, nous demandons les gros porteurs de ne pas emprunter le rond-point des Martyrs pendant 45 jours. Cette décision a été prise de commun encore avec le ministère des Travaux publics, mais malheureusement, je constate que la diffusion de cette information a pris un peu du retard. Et si vous constatez, il y a des différences, il ne faut pas que la population nous condamne. Aujourd'hui, nous avons fait ce qu'on a fait comme travaux. Il y a eu des contrôles, et tous les ministères, les services de contrôle. Il va falloir prendre des dispositions sécuritaires jusqu'à ce que l'ouvrage atteigne l'âge normal de sa mise en service. Je remercie publiquement le DG de la police qui a fait un acte patriotique pour la confection des panneaux pour la limitation des charges sur le rond-point des Martyrs.
Dans la suite de cette édition, EDA, l'Union nationale des coopératives minières de Centrafrique, a désormais un nouveau bureau.
C'est à l'issue de la 4e Assemblée générale extraordinaire organisée jeudi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Objectif, assurer la traçabilité des diamants et or artisanaux afin de permettre aux coopératives minières de bénéficier des appuis techniques, matériels et financiers dans les partenaires publics et privés. Claire Ndombé à Samba.
Cette 4e Assemblée générale a permis d'avoir un nouveau bureau composé de 8 membres. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, il a pour mission de mobiliser les hommes d'affaires capables de tenir le secteur minier en Centrafrique. Francis Gamba, nouveau président élu, se dit satisfait d'être à la tête de cette organisation.
Je suis très satisfait de la 4e Assemblée Générale Extraordinaire de l'Union. La conclusion en est là. Le message de l'Assemblée Générale, organe suprême de l'Union, est de rechercher l'excellence. On mettra cela en exécution. Beaucoup de défis à relever, donc il est urgent de rétablir l'Union dans ses droits. Notre défi majeur, c'est de faire de sorte à ce que les artisans miniers, à travers les coopératives minières, puissent jouer un rôle déterminant.
Pour Léopold Mboli Fatran, ministre des Mines, ce nouveau bureau doit être un véritable intermédiaire entre l'administration et les artisans miniers.
Ce nouveau bureau, pour moi, doit être le véritable intermédiaire entre l'administration et les artisans miniers. Parce que nous avons aussi, de notre côté, en tant que ministère, nous avons beaucoup négocié des appuis techniques et financiers avec les partenaires extérieurs qui sont prêts à pouvoir les aider, mais malheureusement, il faut avouer que le bureau sortant n'a pas été à la hauteur. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir un bureau dynamique pour travailler à l'intérieur du pays.
Cette coopérative est l'une des recommandations des assises des États généraux du secteur minier tenues à Bangui en juillet 2003, créant l'Union nationale des coopératives minières de Centrafrique. Au cours de cette assise, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a fait une visite inopinée. Une enveloppe symbolique a été remise aux coopératives.
Claire Ndombe Asamba sur Radio Ndekeluka.
24 étudiants de la 7e promotion du Centre international du développement d'éthique et du leadership ont reçu leur certificat de fin de formation.
Ceci après 13 semaines de formation sur le leadership. La cérémonie de remise de ces certificats a eu lieu ce jeudi à Bangui. Le point avec vous, Emmanuel.
Monsieur Innocent Haute-Poissy, au nom du directeur du chancelier de l'Université de je vous remets ce certificat pour vous conserver. Vous êtes mieux conseillé.
C'est sur ce message que le secrétaire général de l'Université de Bangui, qui a représenté le recteur, a procédé à la remise de ses certificats. Ils sont 24 étudiants venus de différents départements à bénéficier de cette formation de leader qui a duré plus de 3 mois. Joe Lionel Ngupana est l'un des lauréats.
Je suis très ému pour ce certificat. Maintenant, nous sommes le miroir de la jeunesse. Nous avons déjà ce certificat en leadership. Nous allons maintenant le pratiquer dans les milieux familiaux, au milieu studentin, mais aussi au milieu professionnel, afin de développer notre très cher beau pays, le Centrafrique.
Docteur Augustin Ibaïlé, directeur de CIDEL, revient sur les modules dispensés pendant cette formation.
Nous avons 2 modules clés. Le premier module clé, c'est les images qui forment les habitudes et les attitudes de leadership. Deuxième module, c'est l'initiation à l'éthique appliquée. Et quand vous prenez tous ces 2 modules et que les étudiants parcourent ces formations, nous pensons qu'ils ont eu assez de doses pour être des étudiants qui font la révolution passive dans les comportements et les transformations de la société.
Créé depuis 2006 au sein de l'Université de Bangui, le Centre international du développement d'éthique et du leadership a déjà enregistré plus de 2500 étudiants et a formé 1668 lauréats en leadership. Le Comité international de la Croix-Rouge dresse un bilan satisfaisant de ses actions menées dans la lutte contre le COVID-19 en RCA.
L'une des actions consiste à appuyer les volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine dans la sensibilisation afin d'atteindre plus d'un million de personnes dans le pays. Bilan fait ce mercredi au cours d'une conférence de presse à Bangui. Bruce Bieber, chef de la délégation du CICR, est à votre micro, Emmanuel.
Je dirais pas que on est vraiment content du bilan, parce qu'on pense toujours qu'on peut faire plus. Je crois que vu les différents défis que la situation se présentait, que à la lumière de ça, oui, on a pu réaliser pas mal de choses. Donc, il fallait mettre une chose en exergue. Ce serait vraiment l'action qu'on a entreprise pour soutenir la Croix-Rouge centrafricaine au niveau communautaire. Je crois que là, on a tous collectivement, en tant que Croix-Rouge, vraiment réalisé et réalise toujours une campagne de sensibilisation qu'on estime a touché plus d'un million de personnes. Je dis Croix-Rouge, Croix-Rouge centrafricaine et le CICR, avec la Croix-Rouge française et aussi Croix-Rouge néerlandaise, on a assuré que l'action des volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine et notre autre action de sensibilisation vise aussi ces régions-là qui risquent d'être oubliées dans une telle situation.
COVID-19 en RCA, le ministère de la Santé a annoncé hier 3 nouveaux cas de contamination.
Selon le dernier communiqué du ministère de la Santé, le nombre des malades est de 4608, dont 1606 guéris et 59 décès. L'Afrique a enregistré plus de 928 000 cas confirmés de COVID-19 pour plus de 580 000 guéris et plus de 19 000 décès. Dans le monde, le coronavirus a touché plus de 17 millions de personnes et a fait plus de 675 000 morts.
En sport, le ministre de la Jeunesse et des Sports salue l'élection de Célestin Yanindi à la tête de la Fédération centrafricaine de football.
C'est le 20 juillet dernier qu'il a été élu au cours de l'Assemblée générale élective de cette organisation, membre de la Confédération africaine de football pour un mandat de 4 ans. L'ancien premier vice-président dans le bureau dirigé par Patrice Edouard Ngaïsona est désormais le numéro 1 du football centrafricain. Parti sans aucun challenger, il a obtenu les 63 voix sur les 63 délégués qui étaient présents dans cette assemblée générale. Régis Lionel Dunda, ministre de la Jeunesse et des Sports, au micro de Bienvenue Bello.
Je tiens à féliciter le nouveau président de la Fédération centrafricaine de football. Notre fédération s'est normalisée et j'ai remarqué que M. Célestin Yanindi, à qui j'adresse toutes mes félicitations les plus vives et chaleureuses, est déjà au travail. J'ai vu il a relancé les activités de football partout. Personnellement, je lui adresse toutes mes félicitations et nous comptons énormément sur lui pour que notre football se relève.
Président fondateur du Diplomate Football Club du 8e arrondissement d'FC8 qui évolue en première division en ce moment. Il a géré la Ligue de Bangui dans les années 2000 avant d'intégrer la fédération comme premier vice-président. Dans ses priorités, Célestin Yanindi met en avant la mise en œuvre du programme de soutien technique qui sera financé par la FIFA en collaboration avec la Fédération française de football. La toute première qualification historique de la sélection centrafricaine à une compétition majeure de la CAF.
International, Didier Drogba a déposé sa candidature ce samedi matin au siège de la dite fédération à Trècheville, à Abidjan.
Le dépôt des dossiers de candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF sera clos ce jour à 17h selon nos informations. Dans cette course pour diriger le football ivoirien, Idriss Diallo, Souris Diabaté et autres ont aussi déposé leur candidature pour la présidence de la FIF. Des élections qui dépassent les frontières à cause de la participation de l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps, l'ancien capitaine des éléments Didier Drogba. Voilà tout pour ce journal en français préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous d'avoir été des nôtres. La version Sango, c'est après la revue de presse à l'international avec Stéphane Flemali.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
Merci, auditeurs des 100.9 FM des www.radio-ndekeluka.org. Il est l'heure de vous inviter à suivre la revue du site international avec Stéphane Flemalek. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Accord entre le pouvoir et le chef de guerre Ali Darassa, RFI titre à la une.
Le premier ministre centrafricain Firmin Grébada a signé ce jeudi à Bangui un accord avec le chef du groupe armé UPC. Dans ce document, qu'ils ont appelé procès verbal d'un huis clos, le chef de guerre s'engage pratiquement à rentrer dans les rangs. En outre, Ali Darassa aurait obtenu une contrepartie financière, toujours selon les sources contactées par RFI.
COVID-19, l'accès aux équipements compliqués par la compétition internationale.
Ces dernières semaines, les partenaires et bailleurs de la Centrafrique ont annoncé débloquer plusieurs millions de dollars pour aider le pays à surmonter la pandémie de COVID-19. La gestion de ces fonds et leur usage est régulièrement questionnée. Le pays manque toujours de certains équipements médicaux. Cependant, les autorités se disent confrontées à des difficultés d'approvisionnement.
L'embargo sur les armes n'a plus de sens, martèle Marie-Noëlle Kouyara.
Autant d'arguments que la ministre centrafricaine de la Défense a mis en avant pour plaider en faveur de la levée totale de l'embargo. Ceci pour donner à l'armée les moyens de faire face aux groupes dissidents, a souligné Jeune Afrique. Une armée, ce sont des armes, martèle cette femme très proche du président Faustin Archange Touadéra, qui a appelé auparavant au soutien des autres pays membres.
Merci Stéphane et surtout bon week-end à vous. L'actualité continue sur les 100.9 FM.